Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Reflet et Vert. Au programme, le processus pénal et le délai judiciaire. Ce que nous dit et ne nous dit pas l'arrêt Jordan sur le système canadien de justice pénale. Pourquoi méditer? Le conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Le sceau d'authenticité des produits d'ici. Et économiser l'eau au jardin, c'est maintenant. Bonne écoute!
Le processus pénal et les délais judiciaires. Ce que nous dit et ne nous dit pas l'arrêt Jordan sur le système canadien de justice pénale. Un texte d'Alexandre Stylios paru dans la revue Reflet en juin 2023. En 2016, la Cour suprême, dans une décision partagée 5 juges contre 4, est désormais célèbre, connue sous le nom d'arrêt Jordan, pointait du doigt le système canadien de justice pénale, estimant qu'il en était venu à tolérer les délais excessifs des procédures. Cette décision imposait un changement d'orientation, accusant les acteurs concernés d'une culture de complaisance à l'égard des délais. La Cour a adopté un cadre d'analyse fixant des délais plafonds, présumés déraisonnables, dans lesquels un procès pénal doit être mené à terme, 18 mois devant une cour provinciale et 30 mois devant une cour supérieure ou provinciale avec enquête préliminaire. Au-delà de ces délais, la procédure est sanctionnée par un arrêt des procédures qui signe la fin du processus judiciaire pour l'inculpé. Dans l'élan de l'arrêt Jordan, le législateur canadien a adopté un certain nombre de modifications au code criminel pour réduire les délais de procédure. Par exemple, un régime de déjudiciarisation concernant certaines infractions contre l'administration de la justice a été mis en place. Pourtant, les données de 2017 à 2021 de Statistique Canada montrent que la durée médiane en jours d'une procédure devant une cour de juridiction criminelle pour les adultes a continué d'augmenter. La pandémie de COVID-19 est certainement responsable en partie de cette hausse. D'autres facteurs, non abordés dans l'arrêt Jordan, peuvent aussi éclairer cette tendance apparue au cours des années 1990 et qui n'est pas propre au Québec. Parmi ceux-ci, mentionnons une insuffisance des ressources humaines. Une augmentation du nombre de juges devrait être sérieusement envisagée. De même, le développement depuis près de 50 ans d'un droit pénal réglementaire, notamment provincial, a conduit à un important contentieux judiciaire qui mobilise largement les ressources humaines et matérielles des cours provinciales initialement consacrées aux infractions criminelles. Depuis 2012, au Québec, le nombre de dossiers de droit criminel est en baisse, alors que le nombre de dossiers qui relève du droit pénal réglementaire est en hausse constante. Les juges doivent parfois délaisser ce contentieux pénal réglementaire, infraction de moindre gravité, pour s'occuper des dossiers de droit criminel afin d'éviter un arrêt des procédures. Les dossiers de droit pénal réglementaire, mis momentanément de côté, risquent à leur tour d'être frappés par un arrêt des procédures. Cette problématique invite à repenser le droit pénal réglementaire et à réfléchir à une dépénalisation de certaines de ces infractions, ce qui pourrait aussi soulever des problèmes d'équité procédurale. La question des délais judiciaires demeure complexe. Elle n'est pas près d'être résolue. L'arrêt Jordan, en instaurant des plafonds chiffrés, a également confirmé une tendance de l'évolution du droit et de la procédure en quête d'effectivité pour l'un et d'efficacité et d'efficience pour l'autre, donnant ainsi une dimension économique au processus pénal déjà empreint d'une forte technicité. Les autres acteurs du système de justice pénale, juges, avocats de la défense ou procureurs de la couronne, subissent également et parfois péniblement les conséquences de ce changement de culture, puisque le mot d'ordre est dorénavant d'aller vite. Ce souci de l'efficience procédurale, on le trouve également dans le recours au plaidoyer de culpabilité. Quelques mois après Jordan, la Cour suprême a déclaré dans une décision de 2016, Anthony Cook, que le plaidoyer de culpabilité qui permet d'éviter le procès fait que notre système de justice serait mis à genoux et s'effondrerait finalement sous son propre poids. N'oublions pas que la justice se doit d'être sereine. En l'état, on peut se permettre de douter qu'elle le soit. C'était Le procès pénal et les délais judiciaires, ce que nous dit et ne nous dit pas l'arrêt Jordan sur le système canadien de justice pénale. Un texte d'Alexandre Stylios, paru dans la revue Reflet en juin 2023. Pourquoi méditer? Un texte de Nadia Lévesque, paru dans la revue Reflet en juin 2023. Presque toutes les personnes qui s'assoient dans une de mes classes ou un de mes ateliers arrivent avec le désir de trouver du calme, un apaisement de l'esprit ou de l'âme, avec une quête intérieure pour s'extraire du tourbillon du quotidien. Au début, la plupart des gens ont de la difficulté à nommer leur motivation, mais j'observe que peu d'entre eux viennent à la méditation parce qu'ils se sentent parfaitement épanouis et en paix. Généralement, les gens la découvrent par leur lecture, par leur conversation avec des personnes qui la pratiquent et en parlent avec enthousiasme ou parfois, en dernier recours, après avoir tout essayé pour gérer leur stress ou leur anxiété. Méditer, c'est décider de prendre un moment pour revenir à l'instant présent. C'est laisser le passé derrière, ne pas regarder devant pour tenter de prévoir ou de contrôler le futur, c'est tourner son regard vers l'intérieur de soi, respirer et être. Assez simple, direz-vous. Pas toujours. Étant donné les stimulations permanentes de notre mode de vie, des horaires où chaque minute de chaque jour doit être optimisée et surtout un cerveau qui nous bombarde d'informations chaque seconde, se tourner vers soi, cesser de répondre aux stimuli externes le temps d'une séance de méditation, s'avère souvent une aptitude qui doit être développée. C'est une capacité qui s'acquiert, un outil qu'on apprend à utiliser en s'exerçant régulièrement comme lors de n'importe quel entraînement. Plusieurs cultures, religions ou philosophies proposent des versions différentes du mécanisme utilisé pour parvenir à l'état méditatif, mais on médite tous pour parvenir à un état de détachement, à une sorte d'apesanteur, le temps d'une séance, grâce à des techniques visant à canaliser notre attention. Respiration, chants sacrés, mantras ou autres, ces techniques permettent aux personnes qui méditent de ralentir leur activité mentale. Pensez à ces boules décoratives qu'on agite et dont la neige tourbillonne initialement pour graduellement se déposer au fond et révéler le paysage qu'elles contiennent. Méditer, c'est choisir d'arrêter d'agiter notre boule mentale et laisser la neige se déposer pour nous révéler notre état d'être. C'est cet état qui est recherché et tellement apprécié des méditants. Si toutes les personnes qui commencent à pratiquer la méditation affirment ressentir moins de stress, ses bienfaits sont multiples et s'accroissent avec l'adoption d'une pratique régulière. Une diminution de la pression artérielle, une meilleure réponse immunitaire, une augmentation de la concentration, des relations interpersonnelles plus harmonieuses, une meilleure résistance au stress. Les avantages rapportés sont très nombreux et corroborés par des centaines de recherches scientifiques. Les bénéfices de la méditation sur notre ressenti sont indéniables, tout en étant difficiles à décrire. La méditation joue sur plusieurs facettes de notre état en même temps. Ma propre coach de méditation, Marie-Ève Lessine, de Let It Be Méditation, le résume bien, je trouve, lorsqu'elle dit ceci. La méditation apporte du soyeux à la vie. Au fond, n'est-ce pas là une raison suffisante de s'initier à cette pratique? Un peu plus de soyeux et de doux dans notre vie quotidienne? C'était « Pourquoi méditer ?», un texte de Nadia Lévesque, paru dans la revue Reflet, juin 2023. Le conseil des appellations réservées et des termes valorisants, le sceau d'authenticité des produits d'ici. Un texte de Jocelyn Roy, paru dans la revue Reflet en juin 2023. Le conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec, CARTV, agit depuis 2006 à titre de gardien de l'authenticité des aliments et alcools d'ici. Vous avez d'ailleurs probablement déjà aperçu ces certifications sur les tablettes de vos détaillants préférés ou encore au cours d'une de vos récentes virées gourmandes. Les produits portant ces certifications sont de véritables sources de fierté identitaire. Découvrir les appellations réservées, c'est partir en voyage sur les ailes de saveurs de chez nous. La petite histoire du CARTV. Fondé il y a maintenant 17 ans, le CARTV vise à protéger des désignations de produits agricoles et alimentaires spécifiques. Toutes les appellations réservées sont encadrées par un cahier des charges soumis à une certification externe par des organismes accrédités. Une appellation réservée ou un terme valorisant peut être demandé à l'égard de l'origine, d'une spécificité, de caractéristiques particulières liées à une méthode de production ou encore d'une qualité particulière prisée par les consommateurs. À ce jour, le Québec propose un total de 8 appellations réservées, soit l'appellation biologique, le cidre de glace du Québec, le fromage de vache de race canadienne, le fromage fermier, le vin du Québec, le maïs sucré de Neuville, le vin de glace du Québec et l'agneau de Charlevoix. C'est d'ailleurs cette appellation qui a été la première à être reconnue de manière officielle en 2009. Pour être certifié, un agneau de Charlevoix doit avoir été élevé dans le respect de normes figurant dans un cahier des charges rigoureux. Il s'agit obligatoirement d'un agneau né et élevé en bergerie, de sa naissance jusqu'à la fin de son engraissement, dans la région de Charlevoix. Adapté aux caractéristiques de la région, son alimentation de base est constituée d'orge et d'avoine, produites dans l'aire géographique délimitée, ainsi que de fourrage produit majoritairement par les éleveurs eux-mêmes. L'élevage d'un agneau typiquement charlevoisien, lié à son territoire de production, a entraîné l'exclusion du maïs de l'alimentation de l'animal au profit d'une valorisation des ressources régionales. Ces choix de production adaptés à la région résultent en un agneau de petite conformation dont la viande et de rosée à rouge pâle, peu grasse et tendre. Depuis sa fondation, le CARTV a adopté divers outils permettant de reconnaître facilement ses produits sur nos tablettes. En plus de ses actions centrées sur le marché québécois, le Conseil est maintenant reconnu comme l'instance compétente certifiant la qualité des vins québécois en vue de leur exportation vers l'Union européenne. Des vins du Québec exportés en France. Qui l'eût cru? La valorisation des produits d'ici. Étant donné l'intérêt croissant des consommateurs pour l'achat local, des organisations comme le CARTV gagnent en importance. Les certifications deviennent de véritables repères de confiance pour les consommateurs. Le territoire québécois est riche et regorge de ressources. Il est donc essentiel qu'une instance puisse encadrer leur mise en valeur. Des critères permettant de certifier la provenance ou la qualité du savoir-faire de la production encadrent la mise en marché des produits certifiés par les appellations réservées et termes valorisants, ARTV, chez nous. La même rigueur et des règles strictes sont appliquées afin d'assurer que les produits respectent chaque fois les critères de qualité qui en font des produits d'exception. C'est là que le rôle du CARTV devient crucial, puisqu'il permet d'en garantir l'authenticité, de préserver le savoir-faire dont ils émanent et de les pérenniser. En plus de ces appellations et termes déjà reconnus, des projets sont en cours afin de permettre de certifier les spiritueux d'ici et, pourquoi pas, les bagels de Montréal et le fromage à poutine. Les consommateurs jouent un rôle de premier plan dans la promotion et la mise en valeur de ces produits. Lors de vos courses ou de vos prochaines escapades gourmandes, assurez-vous d'acheter un produit d'ici synonyme de grande qualité et d'une fierté collective et rassembleuse. C'était le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, le sceau d'authenticité des produits d'ici, un texte de Jocelyn Roy, paru dans la revue Reflet en juin 2023. Économiser l'eau au jardin, c'est maintenant. Un texte d'Hélène Barry, paru au printemps 2023 dans la revue Vert. En tant que jardinier éco-responsable, une question d'importance est assurément l'économie de l'eau. Comment pouvons-nous réduire notre consommation d'eau potable sans pour autant compromettre la beauté et la production de nos plates-bandes et notre potager? Comment pouvons-nous composer avec les restrictions municipales et les périodes de chaleur intense de plus en plus fréquentes? Voyons comment poser des gestes simples et efficaces tout en préservant nos cultures. Mentionnons d'abord que la gestion de l'eau au jardin commence par un bon travail du sol, le choix de végétaux adaptés à leur environnement, ainsi que la modification et l'amélioration des techniques d'arrosage. Par ces simples gestes, vous contribuerez à optimiser votre utilisation de l'eau tout en préservant la santé de vos plantes. Voici quelques précieux conseils qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Une bonne préparation du sol et du site. Qu'il s'agisse de plates-bandes ornementales, de pelouses ou de jardins potagers, la qualité du sol influence directement le développement des végétaux. C'est pourquoi un ajout de matière organique, compost ou fumier, au printemps ou à l'automne, améliorera la capacité de rétention de l'eau dans le sol, qu'il soit argileux ou sablonneux. Dans les plates-bandes et sur la pelouse, un épandage uniforme en surface suffit, mais Pour le potager, il est préférable de cibler les plants plus gourmands en nutriments afin de leur fournir tout ce dont ils ont besoin. En somme, pourquoi bien préparer son sol et s'occuper de l'environnement de plantation? Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On évite les lits de plantation surélevés qui s'assèchent rapidement, les potagers en rangée qui augmentent la compaction du sol par le piétinement lors des récoltes, la tonte de gazon trop courte qui favorise le dessèchement et les infestations d'insectes ravageurs. On adopte les potagers en planches qui facilitent l'entretien et les récoltes, la tonte de gazon plus longue, 8 à 10 cm, en tout temps. Les lits de plantation modulés selon le besoin en eau des végétaux qui y seront plantés. De l'eau et des plantes. Choisir des plantes adaptées au climat de votre région, aux facteurs environnementaux du site, vent, soleil, ombre, etc., résistantes à la sécheresse, et les planter selon leurs besoins en eau et en nutriments. Voici de simples gestes qui feront toute la différence. Bien sûr, vous devrez parfois faire des compromis sur votre sélection végétale, mais avec l'aide de spécialistes, vous serez en mesure de constater qu'il existe un bon nombre de végétaux répondant à ces critères. De belles découvertes vous attendent. Au balcon. Nous savons tous que les plantes cultivées en pot exigent des apports d'eau plus fréquents, surtout si elles sont exposées à des conditions favorisant le dessèchement. Voici quelques conseils pour réduire les arrosages. Utilisez un terreau conçu pour la culture en contenant. Ajoutez du compost, 2 parts de terreau pour 1 part de compost. Placez une soucoupe sous les pots. Respectez l'espace de plantation recommandé. 7 conseils pour un arrosage éco-responsable. L'eau est essentielle à la survie des plantes, mais savons-nous leur fournir adéquatement cette ressource vitale sans la gaspiller? Voici quelques conseils. 1. Arrosez la base des plantes et non le feuillage. 2. Utilisez au besoin des systèmes d'irrigation goutte à goutte qui favorisent l'arrosage au pied des plants de manière très ciblée. 3. Optez pour des arrosages modérés mais profonds pour permettre un bon développement racinaire des plantes. Il est nécessaire que l'eau pénètre le sol en profondeur. 4. Abaissez la température du sol avec l'épandage de paillis organiques. 5. Désherbez régulièrement pour réduire la compétition lors des arrosages. 6. Arrosez au besoin seulement. Les plantes bien établies requièrent moins d'eau que les nouvelles plantations. 7. Arroser tôt le matin ou en fin de soirée pour éviter une évaporation trop rapide de l'eau lorsque le soleil est à son zénith. Merci, récupérateur d'eau de pluie. L'eau de pluie est une ressource écologique et gratuite de bonne qualité parfaite pour les usages horticoles extérieurs. L'installation de récupérateurs d'eau de pluie est simple, efficace et permet de réemployer cette denrée lors d'épisodes de sécheresse prolongée au jardin comme au balcon. Choisir celui qui vous convient. Un bon récupérateur d'eau de pluie doit être d'une dimension suffisante, 300 à 500 litres, muni d'un ou deux robinets pour extraire l'eau. Posséder un couvercle étanche avec ou sans grillage et, si possible, être monté sur un socle. La plupart des grandes surfaces et des centres jardins offrent plusieurs modèles. Pour les grands jardins, optez pour un modèle qui permet de raccorder un ou plusieurs récupérateurs qui se déverseront l'un dans l'autre au besoin. À vous de choisir. Pour construire votre propre récupérateur, matériel nécessaire, un contenant de plastique de 200 litres minimum, poubelle, tonneau usagé, etc. Un couvercle ou une moustiquaire souple, ainsi que 2 tendeurs pour le fixer. Un exacto. 1 ou 2 robinets pour l'extérieur, accompagné d'un ou 2 écrous. Du scellé hydrofuge, des briques ou des dalles pour surélever le récupérateur. Étape de réalisation. 1. Nettoyez le contenant. 2. Percer le couvercle pour y insérer l'extrémité de la gouttière ou tailler le moustiquaire. 3. À 10 cm du fond du récipient, faites un trou pour insérer le robinet. Si vous choisissez d'installer deux robinets pour faciliter le transfert de l'eau dans l'arrosoir, le second sera placé environ à 30 cm du haut du récipient. 4. Fixez le ou les robinets par l'intérieur à l'aide d'un écrou. 5. Appliquez le scellant hydrofuge autour de chaque robinet à l'extérieur et à l'intérieur du contenant. Suivez les instructions sur l'emballage. 6. Laissez sécher de 1 à 2 jours. 7. Montez le récupérateur sur les briques afin de pouvoir placer facilement un arrosoir à main sous le robinet. Qu'est-ce qu'un jardin xérophile? Il s'agit d'un jardin aménagé en milieu climatique sec, avec des plantes qui ne requièrent que très peu d'eau. Les plantes nécessitant peu d'arrosage seront ainsi regroupées et plantées dans un sol adapté à leurs besoins, souvent enrichi de compost pour limiter l'apport en eau. On y retrouvera, entre autres, plusieurs plantes succulentes, des cactus, ainsi que plusieurs variétés de graminées. C'était « Économiser l'eau au jardin, c'est maintenant », un texte d'Hélène Barry, paru dans la revue Vert au printemps 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.